On a ici deux billets de 100 dollars. Alors les connaisseurs vont vous dire, n'est-ce pas, en quelques secondes, que ce billet, c'est un vrai. Celui-ci, c'est un faux. Quelle différence? L'effigie est légèrement différente. L'expression du visage est légèrement différente. Dans la consistance du papier, il y a aussi une légère différence. L'expression de cette effigie, n'est-ce pas, est aussi légèrement différente. L'expression est plus stressée dans le billet qui est faux. La couleur des cheveux aussi, n'est-ce pas? Il y a quelques cheveux blancs qui manquent dans le billet qui est faux par rapport au billet qui est vrai, etc. Il y a beaucoup de différences. Donc, on fait un cours de Torah, ne vous inquiétez pas. Hein. Alors ça, n'est-ce pas, c'est pour les billets de 100 dollars. Alors ceux qui se connaissent, n'est-ce pas, en quelques secondes, ils le savent, ils vont vous énumérer une dizaine de différences entre un billet qui est vrai et un billet qui est faux. Donc, passons à présent aux choses plus sérieuses. Tfiline, alors, voilà, je vous raconte. Il y a une semaine à peine, a donné cette tfiline à vérifier. Les voici. Et le baït Shelia, n'est-ce pas, était totalement vide. Des fois, n'est-ce pas, il y a deux lettres qui se collent. Il y a une lettre qui manque. Bon, c'est grave, c'est pas seul aussi, évidemment. D'autres problèmes, il peut arriver aussi, n'est-ce pas, qu'il y ait un clavier, un parchemin qui soit blanc. Mais là, il n'y a rien du tout. Et le pauvre garçon se rend compte qu'il n'a pas encore commencé à mettre les tefillin, malheureusement. Alors qu'il met tous les jours, pendant une heure. Alors, celui de Roche, n'est-ce pas, était impeccable. Intact, n'est-ce pas? Les parachutes et parchemins sont excellents, super excellents. Bon, ce sont des cas, n'est-ce pas, qui arrivent rarement, mais ça arrive. Celui qui a vérifié, il a dit aussi qu'il y a quelques années, il y a aussi un cas pareil. Il y a 30 ans aussi, un de mes professeurs a raconté que pour un camarade de lycée, c'est aussi arrivé. Top. Alors, pourquoi est-ce que je vous dis ça? Eh bien, tout d'abord pour les tefillin. Alors, quand c'est que des dollars, n'est-ce pas, c'est pas grave, c'est que de l'argent. Même si c'est une grosse somme. Alors, bon, l'argent, on le gagne, on le perd. Et surtout, n'est-ce pas, qu'on a la émouna, que l'argent que tu gagnes et que tu perds, eh bien, tout est décidé, minashamayim. C'est-à-dire qu'en fait, n'est-ce pas, quand on a une perte d'argent considérable, il faut bien renforcer la émouna, que cet argent, eh bien, tu devais le perdre d'une façon ou d'une autre. Comme dit le Gaon de Vilna, quelqu'un qui a volé une somme d'argent, et cette somme d'argent, il l'a gardée toute sa vie, il aime donner en héritage à ses enfants. Eh bien, ça veut dire que cette somme-là lui revenait, et même sans la voler, il l'aurait gagnée, il l'aurait reçue. Malheureusement, lui, par son mauvais choix, eh bien, il a décidé de s'accaparer cette somme d'argent par une grave faute, n'est-ce pas, qui est le fait de voler. Mais sans le voler, il l'aurait récupéré, il l'aurait reçu. Parce qu'en effet, c'est décidé, n'est-ce pas, c'est décidé, à Rosh Hashanah et Kippour, eh bien, qu'est-ce que tu vas gagner et perdre du début à la fin de l'année? C'est décidé aussi dans quelle mesure, quelle intensité une personne va souffrir ou va prendre plaisir de la vie. On a lu Shabbat dernier, dans la paracha, Cholaim ra'im vene emanim. C'est-à-dire que Hachem envoie dans certains cas, eh bien, des maladies, des souffrances qui sont, n'est-ce pas, qui sont de confiance, ne emanim de confiance. La Gemara dit, c'est quoi de confiance? Lorsqu'on va envoyer une souffrance à quelqu'un, eh bien, on fait jurer ses souffrances au ciel. Avant, n'est-ce pas, d'être décroché du ciel pour arriver sur terre, on les fait jurer. Vous allez chez telle personne, uniquement chez lui. Pas son voisin, pas son camarade, pas son cousin, pas son frère, uniquement chez lui. À tel jour, à telle heure, à tel instant. Et vous allez rester chez lui pendant quelques heures, quelques jours, quelques semaines, avec telle intensité de souffrance. Ni plus ni moins. On les fait jurer. Hachem les fait jurer au ciel. Ne'emanim. Cholaim ra'im ve ne'emanim. Si bien que dit la Gemara, dans certains cas, quelqu'un, il avait une maladie, alors il passe à côté d'une maison d'idolâtrie, et il dit, viens, il y a une idole bien spéciale qui amène guérison à toute chose. Donc, il rentre là-bas et il prie à l'idole. Et comme par hasard, eh bien, c'était ce jour-là que au ciel, on l'a décrété, que sa souffrance, sa maladie, devait s'arrêter ce jour-là. Alors les souffrances se posent la question, comme demande à Hachem, qu'est-ce qu'on fait? Si on le quitte aujourd'hui comme prévu, eh bien, il va être persuadé que c'est grâce à sa prière, à cette idole, qu'il a été en fin de compte guéri. Alors mieux vaut rester chez lui. Et ils disent non, on a juré à Hachem. On a juré qu'on sort ce jour-là, il n'y a pas le choix, on doit le quitter. Il va croire que c'est grâce à l'idole, eh bien, c'est son problème à lui. Assez, Cholaim Raim Ve Nemanim. Donc en fait, nous, ça nous enseigne que ce n'est pas la peine de vouloir arracher plus de plaisir dans la vie. Parce que tout ce que tu peux profiter de la vie est décidé. Des fois aussi, on croit que la Torah nous prive de certains plaisirs. C'est un tort. Parce que si on arrache, on prend un plaisir, bien plus, n'est-ce pas, que ce qui a été décrété au ciel, eh bien, en fin de compte, tu vas le rendre. Tu vas, n'est-ce pas, devoir éviter un autre plaisir qui t'était destiné a priori. Tu devras souffrir en contrepartie. Parce que la mida, la mesure de souffrance et de plaisir, c'est décidé au ciel. Évidemment, il faut un niveau d'émouna assez élevé pour cela. Et cela, c'est décidé à Rosh Hashana et Kippour. Dans quelle mesure une personne, n'est-ce pas, va profiter, jouir de la vie ou alors va souffrir. Et c'est pourquoi essayer, n'est-ce pas, de prendre plaisir par une, à travers une faute comme voler de l'argent, eh bien, ça ne sert à rien. Parce que tu ne gagnes jamais rien de plus. Ce que tu devais, n'est-ce pas, l'avoir, tu l'auras de toute façon. C'est pourquoi en certains cas, quand on a un doute, est-ce qu'on doit cet argent ou pas, téléphone au Rav, demande la halakha, et sache pertinemment que jamais tu ne vas rien perdre. Ce qui était destiné au début, tu vas le recevoir. Et si tu donnes, n'est-ce pas, de l'argent que tu penses ne pas devoir donner, et tu le donnes, n'est-ce pas, parce que eh bien, c'est la Torah qui te conseille, eh bien, tu vas le récupérer en fin de compte. Comme dit la Gemara, on ne perd jamais de l'argent en donnant à de la tzedaka. Tu ne perds jamais rien du tout en faisant la mitzvah. Au contraire, tu ne gagnes rien en faisant la avera. Top. Bon, c'est une parenthèse. On revient au sujet. Quand on disait que bien souvent, eh bien, on peut faire une mitzvah, mettre des tefillin pendant des années, et en fin de compte, il n'y a rien dedans, c'est du vide. Alors, entre parenthèses, le poskim parle de cela. Est-ce qu'une personne dans un cas pareil, est-ce qu'il a accompli la mitzvah ou pas? Le Ben Yishraï a une tshuva qui dit qu'il a fait la mitzvah. Parce qu'en effet, c'est l'intention qui compte. Bon, ne le prenez pas à la lettre pour dire que c'est l'intention qui compte dans tous les cas. C'est uniquement dans un cas de force majeure à 100%. Bon, dans ce cas-là aussi, c'est bien plus facile parce que le Bayit Shel Rosh était kasher. Les Tfilin Shel Rosh, n'est-ce pas, étaient kasher. Et en fait, ce sont deux mitzvot qui ne sont pas dépendantes l'une de l'autre. Dit la halakha, quelqu'un qui a une seule tefilin, Yadou Rosh, eh bien, il l'aimait et il fait la mitzvah. Donc, dans ce cas-là, n'est-ce pas, de toute façon, il a fait la mitzvah. Mais, à part ce cas des tefilin, dans la vie, ça peut nous arriver. Ça peut nous arriver qu'on fait quelque chose pendant longtemps, et en fin de compte, on s'est trompé. En fin de compte, c'était du vide, il n'y avait rien du tout. On a donné plusieurs fois l'exemple d'un homme qui arrive à la gare. Et il voit son train en train de démarrer. Alors il prend son cartable sous son bras et il se met à courir. Il arrive miraculeusement à pénétrer dans la dernière porte du dernier wagon. Il s'installe, bien content, essoufflé, en train de transpirer. Et il se rend compte après deux minutes qu'il s'est trompé de direction. Il a pris le train non pas Lyon-Paris, mais Lyon-Marseille, un TGV, et il est coincé à présent. Et cela, ça nous arrive souvent dans la vie. C'est qu'on est en train de foncer, de cavaler, et on est en direction inverse. Comme on peut mettre des tefillines pendant des années, et il n'y a rien dedans. Alors tu te lèves tôt le matin, tu te prépares pour les tefillines, n'est-ce pas, et tu vas en excursion, et tu rebrousses chemin pour récupérer les tefillines, tu perds une heure pour les tefillines, et en fin de compte, en fait, il n'y avait rien, c'était du vide. Il faut beaucoup vérifier, il faut aussi beaucoup prier, il faut vouloir réellement. Comme dit la Gemara, le chemin que tu veux suivre, eh bien, on te suit dans ce chemin. Vous savez, lorsqu'on veut, n'est-ce pas, lorsqu'on va acheter un salon ou une voiture, alors on vérifie bien. On ne compte pas sur le fabricant. On ne dit pas, n'est-ce pas, tiens fabricant, donne-moi la voiture que tu veux, je compte sur toi. On vérifie. Non, ce modèle, je ne l'aime pas. On vérifie est-ce que c'est bonne qualité ou pas, combien de temps de garantie, etc. Alors, pour les tefilines, Chol Sheken. Pour la cacheroute, Chol Sheken encore plus. Tu dois vérifier. Parce que ça concerne non pas le confort de ton corps, mais ça concerne, n'est-ce pas, l'excellence de ton âme. Ça concerne la santé morale, intellectuelle et spirituelle de l'être humain. On devrait vérifier à n'en plus finir. Et vraiment être préoccupé, voire stressé par cela. Je dis voir parce qu'il ne faut pas être stressé dans la vie. Mais il faut être préoccupé pour vraiment vérifier à 100% qu'on est sûr qu'il n'y a rien du tout. Pour les tefillines, pour la cacheroute, pour le shahatnez. Ça aussi, il faut bien vérifier. Pas dire que de nos jours, il n'y a pas. Il est vrai que de nos jours, ne pas, c'est moins courant. Mais ça existe. Ne pas compter, n'est-ce pas, sur les échantillons. Des fois, sur un lot de 500 costumes, eh bien, il peut y en avoir un ou deux avec shahatnez. Et le reste, sans shahatnez. Il y avait une fois un couple en Israël. Pendant 12 ans de mariage, pas d'enfant. Pas d'enfant. Ils vont voir les médecins, les rabbanim, rien du tout. Ça ne marche pas. Quelqu'un leur a dit, vérifiez le shahatnez. Ils ont enlevé tous leurs habits. En effet, la dame avait un habit avec shahatnez. La dame, on ne vérifie pas tellement les habits de dame en général. Elle avait un habit avec shahatnez. Elle l'a jeté. L'année d'après, elle a eu un enfant. Alors, on ne sait pas, n'est-ce pas? On ne sait pas réellement si on fait les mitzvot de façon parfaite ou pas. Alors, vous pourrez dire, qu'est-ce que je peux faire? C'est pas en mes mains, c'est vrai. Mais ce qu'il faut, c'est être préoccupé par cela. Il faut que ça te concerne personnellement. Il faut que tu veuilles vraiment le summum le plus que parfait. Quand on va dans un hôtel, pourquoi tu cherches l'hôtel 4 ou 5 étoiles? Prends un hôtel 2 étoiles, tu as aussi là-bas un lit, tu as aussi une chaise, tu as tout ce qu'il faut. Tu as tout ce qu'il faut, mais c'est incomparable. Moi, je veux, n'est-ce pas, la haute qualité. Je veux les 5 étoiles, je veux le confort à 100%. Je veux que, eh bien, la table et la salle à manger, elles soient propres, nickel. Eh bien, si c'est ça pour ton confort à l'hôtel, Chol Sheken encore plus, tu achètes des tefillines. Quand tu prends, n'est-ce pas, des habits, tu vérifies le shahatnez. Quand tu prends la cacheroute, il faut chercher le 100%. Je ne rentre pas ici dans la considération, n'est-ce pas, qu'est-ce qui est 100%, mais, vous savez, avant de passer dans l'action, dans le concret, il faut d'abord que ça passe par l'esprit de l'homme, par notre neshama. Que d'abord, ton âme, tu la métamorphoses. Que tu sois, n'est-ce pas, quelqu'un qui soit préoccupé par l'accomplissement de la mitzvah. Que tu sois préoccupé, est-ce que tu fais la mitzvah à 100% ou pas? Que tu sois dérangé par cela. Sachez que le Rav Rami Brisk, le fils de Rav Rami Brisk, eh bien, c'était un homme qui était vraiment très, très méticuleux pour le mitzvot, voire même stressé quand il prenait un etrog ou un loulav. Vraiment stressé, est-ce que c'est kasher? Est-ce que c'est mehouda ou pas? Vraiment, il cherchait pendant des heures pour vérifier, eh bien, la splendeur de son etrog, de cette fille, etc. Alors, ce n'est pas un homme qui était stressé ou nerveux, pas du tout. La preuve que pendant la guerre, lorsqu'il se sauvait, n'est-ce pas, des Allemands, lorsqu'ils étaient bombardés, eh bien, il était vraiment relax, cool, sans aucun stress, sans aucun souci, sans aucune préoccupation. Même, il était dans un bâtiment, et tout le monde sortait, on dira, ben il faut sortir, c'est dangereux. Il leur a dit, chaque balle, elle a sa cible. Chaque bombe, n'est-ce pas, elle a sa cible exacte. Ça ne sert à rien de vouloir se sauver. Il faut faire un effort pour ne pas se mettre en danger. Ce n'est pas plus dangereux que là-bas. Si vous voulez, si vous serez plus tranquille, je sors. Et il est sorti pour le faire plaisir. C'était quelqu'un qui était vraiment très relax, très détendu dans la vie en général, mais pour le mitzvot, il était très préoccupé, très méticuleux. Pourquoi? Parce qu'il se rendait compte, eh bien, que réellement, la mitzvah, c'est la santé de l'âme. Si ça te manque, si tu as un lit qui n'est pas confortable, tu as un hôtel 2 étoiles, un billet de 100$ qui est falsifié, alors tu as perdu 100$. Tu as mal dormi la nuit. Bon, c'est un problème, mais ce n'est pas si grave que ça. Alors que ce qui concerne la santé de ton âme, la kashrut, les tefilines, le shahatnez, n'est-ce pas, la tefila, l'étude de la Torah, eh bien, c'est la santé de ton âme dans ce monde-là et dans le monde futur pendant des éternités. Si pour la santé corporelle et physique, on est tellement préoccupé, eh bien, on doit être préoccupé encore plus pour la santé de l'âme. Et vous savez, quand arrive Rosh Hashanah Kippour, alors bon, on en parlera plus en détail la semaine prochaine, mais un bref aperçu en ce qui nous concerne. Rosh Hashanah, qu'est-ce que c'est? C'est une nouvelle année. Qu'est-ce que tu es en train de faire? qui est en train, tu vas atterrir sur une nouvelle planète. Nos sages nous disent que Rosh Hashanah, eh bien, tout est décidé. Tout ce qui va arriver du début à la fin de l'année. Alors bien qu'on peut encore changer les décrets de façon positive ou négative pendant toute l'année, tous les jours, chaque instant, la preuve c'est compris. Pourquoi la prière? Parce qu'on peut changer les décrets. Mais quelle différence il y a? La différence est la suivante. On te dit à Rosh Hashanah, eh bien voilà, tu vas prendre une fusée et tu vas atterrir sur la planète que tu vas choisir. Ensuite, pendant un an, tu vas rester coincé sur cette planète. Tu pourras, pendant l'année éventuellement, changer de pays en pays. Rosh Chodesh, tu peux aussi opérer en toi, n'est-ce pas, certaines différences, certains changements pour le mois entier à venir. Ça, c'est ce que tu opères, Rosh Chodesh. Mais tu ne pourras pas changer de planète jusqu'à l'année prochaine. Tu pourras changer de pays en pays. Tu pourras aussi éventuellement, chaque semaine, le Shabbat, là aussi, n'est-ce pas, c'est encore une fois un carrefour, tu pourras changer de ville en ville pendant le Shabbat. Tu pourras tous les jours, par ta tefila, faire des changements, mais de quartier en quartier, de rue en rue. C'est-à-dire qu'en fait, le changement qui se fait en Shana, c'est un changement radical. C'est une métamorphose de l'âme qui va, n'est-ce pas, te placer dans un univers, dans une planète bien spécifique, pendant une année entière. Et tu vas rester coincé là-bas. Alors, tu pourras évidemment changer, mais le changement, il est moins important qu'à Rosh Hashanah. Tu changes de pays en pays, ou alors de ville en ville. Et ce changement, évidemment, ce n'est pas un voyage dans la planète, mais c'est un changement au niveau de notre âme, notre Neshama. Tu vas décider à Rosh Hashanah quel va être ton niveau moral et spirituel pendant l'année à venir. Alors c'est pourquoi, quand arrive Rosh Hashanah et Kippour, ça on a deux jugements, on dit dans les Télim, qui va, l'ishpot et taaretz, deux fois, qui va, Hashem vient juger la terre, dit le Midrash, qui va de Rosh Hashanah, qui va de Yom Kippourim, Hashem il vient à Rosh Hashanah et il vient à Kippour. Ça veut dire quoi, qui va, Hashem vient pénétrer dans ton cœur, dans ton esprit. Rosh Hashanah c'est la tête de l'année, l'esprit de l'année. Yom Kippourim, c'est le cœur de l'année. Il va vérifier de quelle façon tu le reçois. Et là, tu vois, tu peux réaliser en toi un changement radical, Rosh Hashanah et Kippour, une métamorphose au niveau de ton âme. Et c'est pourquoi, avant Rosh Hashanah, on doit vérifier, est-ce que notre billet de $100, est-ce que c'est un vrai ou c'est un faux? Est-ce que notre tefilin, eh bien, est-ce qu'elles sont vraies ou fausses? C'est le Rav Hillel Lapian, un grand tzaddik qui est décédé environ 60 ans en Israël, c'était Rosh Kfar Hasidim. Lorsqu'il voulait vérifier est-ce qu'une paire de tefillin est cachère ou pas soule, qu'est-ce qu'il faisait? Il les mettait sur la tête. S'il se mettait à vibrer, à trembler, c'est cachère. S'il est indifférent, c'est pas soule. Parce qu'il avait tellement développé en lui cette sensibilité par rapport aux tefillin, et d'autre part, tellement sanctifié son corps, eh bien, qu'il est devenu sensible, n'est-ce pas, à cette énergie spirituelle que les tefillin pouvaient lui donner. Alors nous aussi, on est en mesure de le faire. C'est les gens qui sont aveugles, eh bien, ils ont l'ouïe et le toucher très développé. Pourquoi? Parce que c'est leur façon de communiquer avec la société. Et chacun de nous a un potentiel. Eh bien aussi, cette faculté, on peut nous aussi développer les sens du toucher, l'ouïe, la vue, etc., d'une façon bien plus grande qu'elles sont développées à présent. Ça dépend, n'est-ce pas, de la façon dont tu vas les développer. Alors, le Rav Lapian avait développé en lui cette sensibilité pour les tefillin, pour la mitzvah. Dans le même ordre d'idée, le Baal Ktzot HaChoshen, il y a 200 ans environ, il a rédigé des livre important, qui sont utilisés dans les grandes yeshivot, Tzad HaChoshen, Avnu Elohim, Shosh Mateta. Vers la fin de sa vie, bon, il était malade, un élève l'aidait à s'habiller. Et un élève lui a mis une paire de chaussettes et le rab a crié. Bon, il enlève, il voit s'appeler une épine, il voit qu'il n'y a rien du tout, il dort encore une fois. Le rab se met à hurler encore une fois. Bon, il la met de côté et il met une autre paire de chaussettes. En fin de compte, il s'est avéré qu'il y avait dans ses chaussettes du chatnez. C'est rare dans les chaussettes, mais ça peut arriver. Dans le temps, ça arrivait encore. Et le Rav, encore une fois, eh bien, il avait développé en lui cette sensibilité à la Avera. Une Avera, n'est-ce pas, le dérangeait. Pour une épine, il n'aurait pas crié autant. Il aurait à peine dit un petit soulagement et c'est tout. Un petit soupir et c'est tout. Mais pour la Avera, il a développé en lui, n'est-ce pas, dans son âme, cette sensibilité à la Avera. La Avera le dérange terriblement. Il se met tout de suite à hurler. Alors, lorsqu'on se prépare au Shana Kippour pour vérifier, est-ce que les tefillines sont cachées? Ou alors, est-ce que la tête, elle est cachée? Parce que quand on sent pas, rien, n'est-ce pas? Ou alors, les tefillines ne sont pas bonnes, ou c'est la tête qui n'est pas bonne? Bon, on n'est pas à ce niveau-là, mais c'est-à-dire qu'on doit vérifier, est-ce qu'on est en bonne direction ou pas? Comme cet homme-là qui prend son train. Et il a pris la direction opposée. Alors, nous aussi, ça va nous arriver dans la vie. Est-ce que notre direction, elle est bonne? Alors, on fait un bilan. Le bilan, on peut le faire tous les soirs, chaque semaine, chaque mois. Évidemment, chaque année, c'est encore plus important de réaliser un bilan par rapport à ce qu'on fait. Ce qu'on fait dans la vie en général, par rapport au mitzvot, notre Torah, notre tefila, n'est-ce pas? Comme on donne aussi la voiture à réviser. Alors, si on fait pour la voiture, il faut le chacun encore plus pour notre âme, la santé de notre neshama. Vérifier, est-ce que notre direction, elle est bonne ou pas? Pourquoi? Parce que si on ne le fait pas, on peut réaliser tôt ou tard qu'on est en direction opposée. On peut réaliser qu'on a porté des tefillines pendant des années, mais qui n'étaient pas cachères, qui étaient vides. Des fois, on est affaire à quelque chose et c'est vide de sens. Et des fois, ça nous arrive aussi. On est en train, n'est-ce pas, on fait 36 coups de téléphone, on vérifie 36 machins. En fin de compte, ça n'a rien donné. Ni la voiture, ni l'appartement, ni les vacances, ni l'excursion. Tu t'es dérangé pendant une semaine, rien du tout. Tu as fait des cartes d'invitation, tu t'es démêlé pendant des heures et des heures. En fin de compte, n'est-ce pas? Eh bien, il y a une erreur de frappe dans la carte, tu dois tout recommencer. Des fois, ça nous arrive chacun dans son domaine. On travaille pendant des heures et des heures, des semaines, des mois, et en fin de compte, ça n'a rien donné. Alors, pour éviter cela, surtout dans le domaine moral et spirituel, eh bien, on a chaque année Rosh Hashanah et Kippour. Alors, on a avant Rosh Hashanah une période pour se préparer. Se préparer, est-ce que ta direction, elle est bonne? Fais un bilan, il faut marquer un temps d'arrêt. Marquer un temps, avoir un peu de recul par rapport à ce qu'on fait. Si on raconte une plaisanterie, on demande après Kippour à quelqu'un, est-ce que tu as fait Tshuva? Il y a Tshuva. Il parle de Kippour. Alors, le soir, n'est-ce pas, j'ai fait la tefila, et les slichot, et les teilim, et Mishnah Yoma, le lendemain, la tefila, et les slichot, et Moussa, Kato, etc. J'ai pas eu le temps de faire tshuva. En effet, des fois, on est tellement affairé aux slichot, aux vidouilles, n'est-ce pas, à la tefila, aux mitzvot, on n'a pas le temps de faire tshuva. Et une fois, j'ai quelqu'un, il sort du Gaon Mivilna, il étudie la Torah constamment. Il était assidu, il étudiait la Torah entre 15 et 18 heures par jour. Il ne s'arrêtait pas un instant. Et, comme par hasard, il était ignorant en Torah. Il ne connaissait presque rien. Il faisait qu'étudier, il ne connaissait rien. Alors une fois, à Purim, on a demandé à Gonvina, comment est-ce que cet homme-là, il étudie, il ne connaît rien. Il leur a dit, il étudie tellement qu'il n'a pas le temps d'étudier. Il leur a expliqué. C'est-à-dire qu'il est tellement obsédé, stressé par son étude, par sa volonté, n'est-ce pas, d'être assidu, eh bien, qu'il ne fait pas un bilan comment est-ce qu'on étudie. Il se jette sur l'étude, point final. Étudie, il rabâche, il répète, de façon qui n'est pas programmée, de façon, en fait, qui est mauvaise, dans le sens inverse. Il prend la direction en sens opposé. Donc, il n'a pas le temps d'étudier comme il faut. Ça, c'est aussi à réviser. Comment est-ce qu'on étudie? Est-ce qu'on étudie de façon exacte? La Gemara, le Yom Habkiout, la Halakha, le Moussar, etc. Notre étude, notre tfila, nos midot, n'est-ce pas, nos qualités, notre rapport envers nos parents, envers notre famille proche, éloignée, nos camarades, nos voisins. On doit tout réviser. Bon, évidemment, des fois, on ne peut pas tout transformer, tout métamorphoser. Mais le fait, n'est-ce pas, de faire un bilan, de vouloir, n'est-ce pas, s'améliorer, c'est déjà une certaine transformation extraordinaire. Le fait, n'est-ce pas, de s'arrêter, de marquer un temps d'arrêt, de marquer un temps mort pour vérifier est-ce que c'est la bonne direction ou pas, eh bien, c'est déjà extraordinaire. Et surtout, ça nous fait bénéficier d'une aide divine considérable. Parce qu'en effet, qu'est-ce qui peut nous sauver bien souvent et bien de problèmes dans les tefilines ou alors dans la cacheroute ou chardin, etc. Comme on l'a dit au début, c'est le fait que tu sois préoccupé par cela. Mis à part l'effort que tu dois investir, l'effort, l'argent, etc. La préoccupation, l'intérêt que tu portes pour la mitzvah, lorsque c'est sincère, lorsque c'est honnête, automatiquement, tu as bénéficié d'une siyata lishma, une aide divine. Hachem va t'aider à arriver à la bonne direction, à ne pas se tromper. Si tu te trompes, eh bien Hachem, n'est-ce pas, va te sauver. Va t'envoyer un remède, une allusion pour te dire « Attention, il y a ici un problème, évite cela. » Il faut le vouloir. Il faut, lorsqu'on veut s'améliorer à Rosh Hashanah et Kippour, alors on a évidemment, on doit faire marquer un temps d'arrêt pour vérifier qu'est-ce qui est chez nous kasher ou pas kasher, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais, qu'est-ce qui est à transformer, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Il faut le faire, n'est-ce pas, dans la théorie et dans la pratique. Et essayer de chercher à trouver la bonne direction. Mis à part cela, il faut miser sur la volonté. Le fait de vouloir, c'est une réelle métamorphose en soi. Et grâce à cela, n'est-ce pas, Hachem va nous porter, va nous transporter vers la bonne direction. Alors, comme dit Rosh Hashanah et Kippour, c'est une croisée des chemins. C'est un grand carrefour dans lequel tu vas t'engager pour une année entière. Et l'essentiel, encore une fois, c'est notre niveau moral et spirituel. Quelle est notre façon, n'est-ce pas, de voir le monde? C'est des fois aussi, comme on peut avoir des tefilines qui ne sont pas saouls, ou de l'argent qui n'est pas saoul, mais aussi notre façon de réfléchir est aussi à réviser. Pourquoi ? Des fois, eh bien, on est comme programmé par les mœurs et la civilisation du pays dans lequel on a grandi. Et ce qui nous paraît évident est en réalité exactement le contraire. Prenez un exemple. Il y a certaines divergences entre certains pays. Par exemple, les formes de politesse sont bien différentes en Israël et en France. Sans vous dire, n'est-ce pas, qu'est-ce qui est préférable. Mais bon, on sait qu'il y a des différences. Alors, pour un Français, eh bien, l'Israélien standard est vraiment insolent. Pour l'Israélien, le Français standard est trop, n'est-ce pas, trop pompeux, trop susceptible, etc., etc. Bon, sans entrer, n'est-ce pas, dans les considérations. Mais ça nous montre quoi ? Que lorsque tu as grandi dans un pays, eh bien, ce que tu as vécu, ce que tu as avec ce que tu as grandi, ça te paraît évident et le contraire te paraît tordu et absurde. Et c'est vrai dans presque tous les domaines. Et là aussi, on doit encore faire une révision, se remettre en question. Est-ce que notre façon de penser, de réfléchir, notre idéologie par rapport à la vie, au moins la société, est-ce que c'est conforme à la Torah ou pas ? C'est des fois, là encore, on est pris dans un engrenage. On est en train de voyager en train. Et on prend une direction sans savoir est-ce que c'est la bonne. Alors, Hachem nous arrête, Rosh Hashanah et Kippour. Attention. Là, tu vas choisir dans quelle planète tu vas habiter cette année. C'est à toi de choisir. Et quand tu choisis, eh bien, tu réalises en toi une métamorphose gigantesque de façon morale et spirituelle. Encore un dernier mot. Nous allons commencer notre chaîne demain soir, Shabbat, la dernière semaine de l'année. Dernière semaine de l'année. C'est écrit, n'est-ce pas, dans plusieurs Sfarim, le Arizal, en Ethan Béchis, dans d'autres Sfarim, que cette semaine-là, eh bien, elle a comme Sgoula, comme faculté, comme caractéristique de pouvoir réparer toute l'année passée. C'est-à-dire que ce Shabbat-là, tu pourras, ce Shabbat-là, réparer tous les Shabbatot de l'année. Le dimanche, il va pouvoir, n'est-ce pas, élever tous les dimanches de l'année, etc. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'en fait, même si on n'a pas pu être nickel et parfait toute l'année, Hachem nous donne, n'est-ce pas, encore une dernière chance. Tu vas montrer pendant une semaine à Hachem, eh bien, quelles sont tes capacités, quelles sont tes facultés. Tu dis, voilà Hachem, je veux être parfait, mais c'est difficile. Voilà, je te montre pendant une semaine de quoi je suis capable. On peut se mettre, n'est-ce pas, sous pression une semaine. On a encore, après, il y aura encore 10 jours, passe à notre travail, on va en parler encore, dans ta chaîne. Alors, pendant une semaine, tu montres à Hachem un échantillon d'une semaine parfaite que tu peux réaliser. Perfection dans la Torah, dans la Tfila, dans les Midot, dans la conduite, dans le respect du prochain, etc., etc. Pourquoi c'est important ? de faire attention à chaque jour de la semaine, surtout le Shabbat. Parce que le Shabbat, tout d'abord, c'est la journée la plus importante de l'année. Je rappelle que Shabbat est le jour le plus important de l'année, plus que Yom Kippourim. On dit dans la Tfila, Uberartu Mikol Amim, Vekidashto Mikol Azmanim. Le Shabbat a été béni bien plus que tous les jours de l'année et sanctifié bien plus que toutes les fêtes. Donc le Shabbat, le jour le plus important. Et deuxièmement, parce que le Shabbat, c'est lui qui donne la bracha, la bénédiction pour la semaine à venir. Donc, pour nous garantir une semaine parfaite, il faut faire attention au Shabbat. Le Shabbat, c'est évidemment respecter le Shabbat dans la halakhot. Faire attention de ne pas transgresser le Shabbat, même par inadvertance, même pour le Mouktse, respecter à 100%, réviser la halakhot autant que possible. Deuxièmement, n'est-ce pas, Zachot Yom HaShabbat, faire la tfila et le kiddush de façon parfaite en renforçant la kavana. Et ensuite, Kavod et Oneg, respecter, honorer le Shabbat, prendre plaisir au Shabbat, et aussi éviter de trop papoter des paroles futiles de Shabbat, mais plutôt s'investir dans la Torah et dans la Tfila de façon maximale. C'est ce qui peut nous garantir une semaine parfaite et ce qui peut être un grand tikkun pour l'année passée. Finiske, lektir hatana tova, amen.